Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Alizée Cornet. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vue, elle avait 15 ans et elle jouait déjà son premier Roland-Garros. Elle avait même passé le premier tour. Elle était sur le court Suzanne Lenglen avec Amélie Mauresmo, son idole, qui se tenait en face d'elle. C'est le début d'une grande carrière. 11e mondiale, 8e de finaliste dans tous les grands chelems et vainqueur de la Fed Cup, entre autres. Elle nous raconte tout dans cet épisode, sans compromis. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Alizée Cornet, est-ce qu'on se voit ou on se tutoie?
Je crois qu'on peut se tutoyer, non? Ce sera plus simple.
On se connaît depuis un bout de temps, donc effectivement, ce sera plus simple. Pour préparer cette émission, je me suis plongé dans Sans compromis, ton livre que tu as sorti aux éditions Amphora. Et j'ai déjà été surpris par une chose, c'est le ton très libre. Quel a été ton but précis avec la sortie de ce livre?
C'est une question que je me pose encore, parce qu'un but précis, je ne sais pas si c'est ce que j'avais en tête en commençant à l'écrire. Je me suis plutôt laissée porter, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai écrit sans complexe, avec une plume très libre et très authentique. Parce que vraiment, j'ai pris ce livre comme une sorte de journal intime où j'avais envie de déballer un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur et tout ce que les gens ne savaient pas sur moi. Et c'est vrai que je l'explique dans le livre, j'avais à l'époque, encore plus que maintenant, une image assez clivante. Et je voulais expliquer un peu les rouages de tout ce qui pouvait se passer dans la tête d'un athlète de haut niveau et dans mon cas en particulier.
On va y revenir un peu sur cette image clivante dont tu parles. Mais donc, je me suis plongé dans ta carrière et dans ta vie. Je vais commencer par ta carrière, qui est immense déjà. Qui étaient les idoles de la jeune Alizée quand elle était petite?
Alors moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Martina Hingis, Justine Hénin. J'aimais beaucoup Amélie aussi, c'était un peu ma référence au niveau français. Mais j'avais beaucoup d'idoles garçons. Moi, j'étais vraiment, je m'identifiais beaucoup aux joueurs masculins. Du coup, ça a été au départ Pete Sampras, Cédric Pioline. Et puis après, je suis tombée complètement red dingue d'Andy Roddick. C'est pour ça que j'ai appelé mon chien Andy, d'ailleurs. Petite anecdote au passage. Et ensuite, ça a été Rafa. Et Rafa, ça fait donc du coup, depuis qu'il est apparu sur le circuit, 15 ans, voilà, que je le suis et que je prends exemple sur lui du plus possible, parce que c'est quand même un sacré joueur à tous les niveaux.
Ah oui, tu prends carrément exemple sur lui, c'est-à-dire?
Sur son caractère, sur le court, sur son attitude, sa manière de se battre en étant toujours très humble. Enfin, c'est vraiment un exemple à tous les niveaux. Et aussi, moi, comme j'ai un coup droit un peu lifté, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien m'identifier à ce coup droit, même s'il est gaucher et que c'est pas du tout la même arme pour moi. Mais voilà, c'était une manière pour moi de me transcender et ça l'est toujours. Mais après, maintenant, j'ai 30 ans, donc je me suis un peu calmée sur les idoles.
Certains l'ont peut-être oublié, mais tu as été très précoce. Une carrière qui commence sur les chapeaux de roue, première victoire en Grand Chelem à l'âge de 15 ans, pro à 16, top 100 à 17, top 20 à 18, jusqu'à atteindre ton meilleur classement à 19 ans, la 11e place mondiale. Tu étais pressée, non?
Ouais, j'ai toujours bien aimé faire les choses vite et je ne suis pas d'une nature très patiente, donc je pense que je me suis pas vraiment mis de limite quand je suis arrivée sur le circuit. J'ai juste débarqué avec ma fraîcheur, mon envie et mes capacités qui étaient pas mauvaises apparemment. Surtout physiquement, j'étais vraiment une bête physique à l'époque. Je me débrouille toujours bien, hein, mais c'est vrai que c'était une de mes grandes forces de ramener toujours la balle de plus et de me battre jusqu'au dernier point, de jamais baisser les bras. C'était vraiment mon ADN. Et je pense que les filles me connaissaient pas bien quand je suis arrivée et c'est vrai que j'ai joué aussi sur cet effet de surprise. Et oui, à 19 ans, j'étais effectivement 11e mondiale et ça a été tellement fulgurant en fait que que j'avais pas vraiment le recul nécessaire pour être prête à rester à ce niveau-là, je pense.
On se dit, quand tu vois une telle ascension, c'est que tu étais encore promise à encore aller plus haut. Et après la lecture de ce livre, on sait que ce n'est pas par manque d'ambition, parce que tu es très ambitieuse. Mais tu crois qu'il t'a manqué quoi jusqu'à maintenant pour aller dans ce top 10 et aller plus loin en Grand Chelem?
Ouais, je pense que ça s'est beaucoup joué à cette période-là, en 2009, où j'étais 11e mondiale. Et c'est vraiment là où j'aurais dû serrer la vis encore plus pour pouvoir m'intégrer dans le top 10. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu baissé ma garde, on va dire. J'ai baissé ma garde, j'ai cru que ça y est, j'y étais arrivée. En fait, tout avait été, entre guillemets, si facile, mais ça l'est jamais. Hein. Mais mon parcours avait été vraiment rapide. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'y suis arrivée. Finalement, j'ai qu'à continuer à faire ce que je fais et naturellement, je vais rentrer dans les 10. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, parce que dès qu'on se relâche un peu sur ce circuit, on descend vite au classement, on se fait vite dépasser. Et en fait, à partir de ce moment-là où j'ai un petit peu reculé au classement, au lieu de le prendre avec sérénité, de me dire que j'allais me remettre au travail et que ça allait marcher, en fait, j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Et quand on panique sur un terrain ou en dehors, en général, il n'en découle pas des bonnes choses. Et je me suis enfermée dans une sorte de cercle vicieux où psychologiquement, j'étais pas bien du tout, avec beaucoup de doutes, beaucoup de mécontentement, de frustration. Et voilà, et c'est comme ça que du coup, j'ai perdu aussi 2-3 années après ça. Ensuite, je suis revenue dans les 20 quand même, malgré tout, je suis revenue 18e mondiale en 2014. Mais qu'est-ce qui m'a manqué? C'était un peu de... Là, je pense que vraiment, j'aurais pu aller plus loin. Mais pour le coup... Là, je pense qu'il m'a manqué un petit peu d'ambition. Pour le coup, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes problèmes en fonction des âges. Mais là, j'étais tellement heureuse, en fait, tellement contente d'être revenue dans les 20. Ça m'avait demandé tellement d'efforts, en fait, que je me suis dit, waouh, enfin, c'est bon, quoi. Je suis bien, je vais essayer de rester à ce niveau-là. Et en fait, là, je me suis pas dit, tiens, je vais aller chercher plus loin parce que je peux le faire. Mais voilà, après, on apprend à chaque âge de nos erreurs, entre guillemets, et comme tu dis, j'ai malgré tout une belle carrière, mais c'est vrai que, voilà, j'ai toujours ce petit truc de me dire, bon, j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais faut déjà prendre, voilà, ce qui a été fait.
C'est intéressant quand tu dis baisser ta garde, concrètement, ça se matérialise comment?
J'avais un petit peu moins envie de m'entraîner, alors que moi je suis une bosseuse acharnée et c'est vrai que je suis jamais avare de mon temps et j'aime bien passer beaucoup de temps dans la salle de gym, sur le terrain et tout ça. Et là j'avais un peu moins envie, j'avais un petit peu moins de détermination, mais c'était pas beaucoup, hein, c'était quelques pourcents, mais comme je l'ai dit, ça suffit à ce moment-là pour perdre un match, deux matchs, trois matchs, et puis finalement perdre confiance et se dire, mais en fait, est-ce que je suis légitime à ce niveau-là? Et toutes ces questions qui m'ont suivi pendant toute ma carrière, parce que je me pose beaucoup de questions et je me remets, je remets beaucoup en question tout ce que je fais au quotidien. Et c'est vrai que, voilà, à ce moment-là, j'aurais vraiment dû redoubler d'attention et je pense que il y a aussi mon entourage qui a eu un rôle à jouer à ce niveau-là. Et malheureusement, on s'est tous un peu laissé embarquer dans cette euphorie et on a manqué de vigilance, je pense.
C'était à cette époque-là, le chéri en Arizona dont tu parles dans le livre ou pas?
Et il y a eu aussi ça, oui. C'est vrai que ça a été un passage de quelques mois, mais qui m'a aussi coûté assez cher. C'est que c'est aussi un peu pour ça que j'ai eu moins envie de jouer, je pense, parce que j'étais tombée amoureuse de ce plongeur aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que ma carrière, elle était passée pendant quelques mois au second plan. Et je pense que ça a été un très mauvais calcul. Parce que quand on veut y arriver, quand on veut arriver en haut de la pyramide, et j'en étais pas loin, il faut que le tennis passe avant toute chose en permanence. Et là, j'ai lâché un peu ça pendant quelques mois. Voilà, j'ai mis mon histoire d'amour en avant au détriment de ma carrière tennistique et ça m'a coûté un peu cher. Et après, à 19 ans, c'est des choses qu'on peut pas vraiment anticiper, qui sont normales. On découvre un peu la vie, l'amour et tout ça, et je regrette rien malgré tout.
Tu parles de quasiment le haut de la pyramide, 11e mondial, on peut dire quand même que c'est le tout haut de la pyramide. Il y a ce match dont tu parles aussi, c'est en 2009, tu as deux balles de match contre Dinara Safina en 8e de l'Open d'Australie. C'est pour aller en quart de finale, tu dis que c'est là où tu as été le plus proche d'y aller, quoi.
Ah, on peut difficilement faire plus proche. À un petit point près, j'ai envie de dire même à un petit centimètre près, parce que je me souviens sur une des balles de match, je fais un coup droit long de ligne et je demande le hokaï et la balle sort vraiment de quelques millimètres. Et là, quand je perds ce match, je me dis, bon, j'espère que je vais pouvoir me mettre un quart de finale sous la dent avant la fin de ma carrière, parce que sinon, ça arrête de piquer. Et là, j'ai 30 ans et j'ai toujours pas de quart de finale en Grand Chelem. Et souvent, je me replonge dans ce match et je me dis, mon Dieu, mais on ne sait pas après à quoi tient une carrière. Et c'est vrai, je me souviens, j'avais calculé en quart de finale, c'était pour rencontrer Dokic, je crois, qui jouait très bien, mais je jouais vraiment hyper bien à l'époque. Sa finale, c'était la numéro 1 mondiale. Hein. Et donc voilà, potentiellement, pourquoi pas une demi-finale. Et puis, bon, il vaut mieux pas penser à ça parce que c'est des suppositions qui servent à rien. Mais c'est vrai que ça a été un mini tournant dans ma carrière de rater ces balles de match-là. Je les ai encore un petit peu en travers de la gorge, même 11 ans plus tard.
C'est vrai, on repense à ces moments-là.
Ouais, j'y repense assez régulièrement, pas tous les jours, hein, mais j'y repense. Ça me traverse l'esprit parfois, surtout quand, par exemple, là, j'étais en huitième de finale à l'US Open il y a 2 mois. J'étais à 3-3 au troisième set. Alors, je dis pas que j'y ai pensé à ce moment-là, mais quand j'ai perdu ce match-là, en étant encore assez proche de gagner et d'atteindre mon quart de finale tant désiré, je me suis dit, purée, voilà, là, je me suis replongée dans le match de 2009 et je me suis dit, ah, ça fait 2 fois que je passe quand même pas loin. Ça commence à me courir sur le haricot, quoi. Donc, voilà, après, je veux pas en faire une psychose parce que c'est le meilleur moyen de finalement ne pas y arriver. Mais je me connais et je sais que je vais pas lâcher jusqu'au bout. Je vais essayer de l'obtenir, ce quart de finale.
Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a 2 mois, tu le disais, tu étais encore en 8e de Grand Chelem. Donc, en 2021, t'as potentiellement 4 possibilités d'aller plus loin. Donc, ça, c'est bien.
On l'espère.
On espère avec le calendrier qui peut être un peu capricieux. Il y a un autre moment fort dans ta carrière, c'est Wimbledon 2014. Tu perds ta grand-mère avant le tournoi. Tu gagnes tes 2 premiers tours, non sans mal. Tu te dis, je sais pas ce qui se passe, je joue, je suis pas là, mais je joue, j'arrive à m'en sortir. Ouais. Tu vas assister aux funérailles de ta grand-mère la veille de ton 3e tour face à Serena Williams. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux évoquer ce souvenir-là avec nous?
Ouais, c'est un chapitre qui prend pas mal de place dans le livre parce que je trouve que c'est une belle histoire, une histoire comme on en traverse tous, avec de la douleur, mais aussi de la joie au final. Et ça a été un micmac de tant d'émotions en 15 jours que je pouvais pas ne pas en parler et ne pas m'épancher là-dessus. Et du coup, oui, la veille du 3e tour, je fais l'aller-retour à Nice pour enterrer ma grand-mère. Je parle à 5h du matin et je reviens à 20h le soir, et le lendemain je suis programmée à 13h sur le cours numéro 1. Donc bon, je dors pas beaucoup, je suis un peu sous l'émotion, mais d'un côté je suis un peu ailleurs en fait, parce que quand on doit assister aux funérailles d'un être cher, il y a comme une partie de nous qui est quand même un peu atteinte, on va dire. Et là, j'ai envie de relativiser ce match en me disant, mais j'ai tellement de chance de faire ça. Voilà, il y a vraiment eu ce truc de relativiser l'événement, en fait. J'avais envie de prendre que le positif de ce 3e tour contre Serena et de me dire, fais-toi plaisir, il y a des choses 100 fois plus graves dans la vie. Tu viens d'enterrer ta grand-mère, donc là, voilà, kiffe le moment. C'était vraiment le but de mon match. Et il se trouve qu'en kiffant le moment à ce point, bah, je l'ai gagné, le match. Donc voilà, il y a eu 2 premiers tours très, très difficiles où il y avait beaucoup d'émotions et très peu d'envie. Et après avoir enterré ma grand-mère, il y a eu ce 3e tour un peu miraculeux où je me dis, bon, bah, allez, il est temps de lâcher les chevaux, de prendre du recul par rapport à ce tennis qui me bouffe la vie en permanence. Un peu ce fuck, quoi. Allez, fuck, on y va. Et j'y suis allée et j'ai tout donné. J'ai fait un très bon match. Et je me suis qualifiée pour les 8e de finale de Wimbledon en battant Serena sur le cours numéro 1. Donc, ça a été en l'espace de 48 heures un ascenseur émotionnel comme j'en avais jamais connu.
Je pousse les jeunes joueuses et même les jeunes joueurs à aller voir ce match, puisque pour préparer cette émission, je suis allé voir quelques extraits. Qu'est-ce que ça jouait bien?
Merci.
Vraiment. Et deuxièmement, je me suis dit dans ma tête, Alizé, que voilà, je t'ai vu jouer, je t'ai vu évoluer. On pourrait plutôt dire que t'es pas forcément une joueuse de surface rapide avec ton jeu. Tu cours partout, t'as un coup droit, tu le dis assez lifté, même s'il a évolué pareil, j'ai revu des images de ton match contre Amélie quand tu as 15 ans à Roland-Garros. Ta technique en coup droit a évolué, c'est quelque chose de dingue. Et on te voit sur ce court numéro 1 à Wimbledon contre la numéro 1 mondiale. Hein, Serena Williams, à l'époque, elle est numéro 1 mondiale, elle est en pleine forme. Tu la déplaces, tu cours partout, tu joues en variation. Moi, je me suis posé la question, c'est d'accord, il y avait eu les conditions dans lesquelles tu es arrivé sur ce match-là, mais comment tu te prépares quand tu joues Serena Williams? Comment on se prépare quand on joue une telle déesse du jeu?
L'avantage, c'est que cette année-là, en 2014, je l'avais déjà joué à Dubaï, en février, et je l'avais battu sur dur en 2-7. Donc, en fait, il y avait cette croyance un peu qui avait pété, de me dire, non, mais en fait, je l'ai fait une fois, donc je peux le refaire. Et ça, ça a été aussi très, très important, parce que je pense que une fille comme Serena, on peut rapidement se laisser bouffer par son charisme, son jeu. C'est vrai que c'est une drama queen, elle est impressionnante dans tous les sens du terme. Et du coup, le fait de l'avoir battue avant, ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est qu'elle aimait pas trop mon jeu. Elle aime pas trop mon jeu en règle générale. Et c'est vrai que j'ai joué ma carte à fond sans me dire que finalement le match était sur dur ou sur gazon ou sur terre, peu importe. Je me suis dit, je vais utiliser mes armes du mieux que je peux. Donc, ces variations, la déplacer. Moi, je suis une très bonne retourneuse. Donc, j'essaie de la faire jouer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça a bien marché parce que les bons serveurs, ils ont tendance à se frustrer quand ils font pas de points gratuits au service. Et voilà. Et je me suis dit, de toute façon, je vais pas rivaliser avec elle par la puissance. Ça, c'est sûr. Donc, autant la jouer un peu sneaky, quoi. La jouer un peu vicieuse. Et c'est ce que j'ai fait à la perfection ce jour-là. Après, il y a aussi quand même le côté émotionnel. Moi, je suis une joueuse qui suis beaucoup dans l'émotion. J'ai tendance à me laisser vite emporter par mes émotions. Et ce match-là en particulier, et même le match à Dubaï où je l'avais joué, j'étais vraiment dans ma zone, dans ma bulle de concentration. Et c'est un état que j'ai rarement retrouvé par la suite. Donc, il y a eu en fait une combinaison de plein de choses, de plein de paramètres. Qui m'ont permis de créer entre guillemets l'exploit, quoi. Mais c'est vrai que c'est une belle leçon de tactique, ce match, un peu David contre Goliath, et voilà, et je m'en suis sortie avec mes propres armes. Donc c'est une bonne leçon pour les joueurs qui parfois partent défaitistes et qui finalement, si on se rend compte qu'on a aussi nos armes et que si on les exploite bien, on peut gêner qui que ce soit. Là, on peut aller un peu plus loin dans notre tennis, ouais, et dans notre mentalité.
Autre anecdote sur ce match. On sent, pareil, je me suis refait les extraits, on sent que tu as envie d'un peu de rester sur le terrain, un peu d'envie de kiffer. Et en fait, il y a ce protocole-là sur le court numéro 1 et il y a Serena qui te tape l'épaule parce qu'elle t'attend, vous devez sortir ensemble. Alors que toi, on te sent que tu es assise sur le banc, que bah, tu as vécu les journées que tu as vécues, tu as enterré ta grand-mère la veille, tu dois avoir envie de penser à tout ça. Et non, tu dois te lever parce que là, il y a la Queen Serena qui t'attend, quoi.
C'est là où on voit mon manque d'expérience sur les grands courts de Wimbledon, c'est qu'on ne m'avait pas prévenue. Et je pense que surtout, les gens de l'organisation n'avaient même pas prévu de me le dire. En fait, je pense qu'ils n'avaient tellement pas pensé que je pouvais battre Serena que personne ne m'avait prévenu qu'en cas de victoire, il fallait que je sorte en même temps que Serena. Donc, en fait, j'étais sans ma chaise, tranquille. Et d'ailleurs, il y a une photo fantastique où Serena est en train de me taper l'épaule alors que je souris aux anges comme ça. Et donc voilà, gros moment un peu de pas de panique, mais j'étais un peu gênée et confuse parce que c'est vrai que je venais de la battre, mais Serena, ça reste Serena et j'ai une immense admiration pour elle. Et là, je me sentais vraiment la touriste de base, quoi, sur un court où elle sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Et c'était drôle, mais même si le moment était court, je peux te dire que je l'ai bien kiffé quand même.
Je ne peux pas imaginer. J'ai jamais battu un numéro 1 mondial à Wimbledon. Pareil, pour continuer, je le rappelais que tu la battras une troisième fois cette année-là, sur abandon, je crois que c'est en Asie, c'est ça?
Ouais, à Wuhan.
Petite question, comme on parle de Serena, est-ce que tu vois une joueuse qui peut prendre la suite, qui peut... Bon, bien sûr, elle est encore en activité et elle court toujours après ce record fou de record en Grand Chelem, mais qui pourrait prendre la suite?
En fait, plusieurs joueuses, mais pour avoir la carrière, vraiment la carrière de Serena avec ses 23, 24, je ne sais même plus, Grand Chelem, 23 Grand Chelem, ça va quand même être compliqué de battre ce record-là. Mais après, d'avoir une patronne un petit peu dans la hiérarchie, je mettrais bien une petite pièce sur Naomi Osaka quand même. Après, le seul truc avec Naomi Osaka, moi, je la trouve incroyablement forte. Et quand elle joue, j'ai l'impression que c'est du ping-pong. J'ai l'impression qu'on ne fait pas le même sport des fois. C'est assez impressionnant. Mais pour le coup, elle ne sait pas jouer sur terre battue. Donc, il y a quand même cet aspect complet qu'avait Serena, qui a toujours Serena, de savoir jouer sur toutes les surfaces. Elle a gagné les grands chelems sur toutes les surfaces, que je ne vois pas chez Naomi Osaka. Donc, c'est une très bonne joueuse de dur. Sur gazon, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut encore. Mais sur terre battue, c'est quand même pas ça encore. Donc, c'est pour moi une très bonne joueuse. Ça doit être une joueuse complète. Après, on a Ashleigh Barty, évidemment. Mais en fait, on l'a tellement pas vue cette année que je l'avais presque oubliée. Mais oui, c'est une joueuse incroyable, tellement belle à regarder et qui est pour le coup, qui sait tout faire. Sofia Kenin, il y a quelques joueuses hein, quand même qui m'ont interpellée cette année. Après, il y a la petite Swiatek aussi qui est surprenante et qui est tellement jeune. Donc, là, je pense que les 5 années à venir, elles vont être très intéressantes sur le circuit féminin parce que je pense que ça va être à celle qui va vraiment s'imposer. Mais on aura des belles rivalités. On a déjà des belles rivalités. Et moi, ça me réjouit d'avoir ce niveau-là sur le haut niveau féminin parce qu'on est souvent critiqué. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais quand on voit le niveau qu'il y a à l'heure actuelle, franchement, respect.
Surtout qu'elles vont devoir se méfier d'une Alizé Cornet qui va quand même continuer à poursuivre ce rêve de quart de finale, au moins au Grand Chelem. Comme on parle un peu de la suite, j'ai envie d'évoquer les Françaises et les jeunes. On en voit, on commence à voir des nouvelles têtes. On a vu Clara Burel, on a vu Fiona Ferro. Juste un petit sentiment sur la suite du tennis français chez les femmes.
Bah oui, d'ailleurs Fiona, si je ne m'abuse, elle est numéro 1 française à l'heure actuelle. Alors ça me surprend pas du tout. Moi, je l'avais annoncé en début d'année. Enfin, j'avais dit je veux être numéro 1 française, mais si c'est pas moi, ce sera Fiona. parce que je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Elle a un coup droit, c'est un boulet de canon pour avoir fait plusieurs sets d'entraînement avec elle, avoir joué en finale de Lausanne l'année dernière. C'est impressionnant à quel point elle frappe la balle en coup droit sans retenue, comme un coup droit de mec en fait. Et elle est très complète, elle fait pas beaucoup de fautes physiquement, elle a énormément progressé. Elle a encore peut-être des petites lacunes au service qu'il faudra un peu combler. Mais sinon, moi ça m'étonne pas qu'elle soit. Elle est quoi dans les, elle est 40. Je pense qu'elle va monter beaucoup plus haut sur une saison complète, aucun doute. Et après, il y a Clara Burel qui s'est un peu distinguée aussi ces derniers temps. Et c'est aussi une joueuse complète. Et moi, je l'avais très peu vue jouer finalement avant Roland-Garros. Donc, je l'ai découvert aussi récemment. Et ça m'a l'air d'être une bonne carne aussi, la Clara. Là. Elle ne lâche pas grand-chose. Elle ne fait pas beaucoup de fautes. Elle joue très juste. Ouais, c'est la justesse de son jeu que j'aime bien. Donc, c'est des joueuses avec des profils différents. Et ça, c'est cool de voir un petit peu voilà, des joueuses avec des caractéristiques différentes qui arrivent sur le circuit. Après, un petit peu plus loin, il y a aussi Diane Parry quand même, qui est un peu plus jeune et qui a un très beau revers à une main et tout ça, qui doit se consolider encore un peu. Mais voilà, bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde non plus. On aimerait voir beaucoup plus de joueuses françaises débarquer, mais j'ai envie de dire, il vaut mieux de la qualité que de la quantité.
Exactement. Et tu parlais du fait que Clara Burel ne lâche rien. Tu sais de quoi tu parles, puisqu'on peut dire que c'est aussi un peu ta marque de fabrique. Et j'ai envie qu'on aborde ça, mais j'ai envie qu'on sorte un peu des clichés qui pourraient dire qu'il y a une certaine folie chez toi sur le terrain, parce que soyons clairs, et je parle un peu en connaissance de cause, toutes les joueuses et tous les joueurs sont fous. J'ai envie de revenir avec toi sur deux moments, encore une fois, que tu parles dans le livre et qui pourraient symboliser aux yeux du grand public cette folie. Et encore une fois, j'ai envie qu'on l'aborde ensemble pour pouvoir analyser et décortiquer cela. Il y a ce match à Indian Wells où tu en parles assez longuement dans le livre, où tu parles ouvertement à ton clan et pas d'une très bonne manière, on va être honnête. Mm-hmm. Et ton clan qui est composé à l'époque donc de ton compagnon Mika, mm-hmm, et Bastien, ton ancien entraîneur. Et dans le livre, tu dis que tu t'en veux parce que d'un, tu leur parles mal, tu leur demandes de quitter le stade. Et moi, je l'ai déjà vécu en tant que coach. Donc, quand je coachais Julien, Julien m'a déjà mal parlé sur le court parce que c'était un match où il y avait de la tension, parce que tu n'étais pas très très heureux peut-être avec la façon dont on avait préparé le match, parce qu'il n'était pas en accord avec les choix. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là en toi ?
Ah ouais, c'est déjà t'as dit une chose très juste, et qu'on le montre ou pas, tous les joueurs de tennis sont fous. Mais vraiment, c'est vraiment un trait de personnalité qu'on a tous en commun. C'est qu'on n'arriverait pas à ce niveau si on n'avait pas finalement ce grain de folie, ces psychoses, ce côté un peu anormal. Parce que je pense que pour être sportif de haut niveau, il faut être un peu anormal. C'est juste qu'on l'exprime différemment. Ce que j'ai ressenti sur ces matchs-là, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, hein. Il y a eu plusieurs matchs où j'ai mal parlé à mon entourage. Ce match-là, il a juste été vu par des centaines de milliers de personnes et il a circulé sur la toile. Mais j'avais déjà pété des câbles avant ça, très peu après du coup, parce que ça m'a bien calmée. Mais avant ça, j'avais bien pété quelques câbles sur le terrain. Et moi, ce qui prédomine à ce moment-là, c'est une colère, mais en fait, paradoxalement, pas une colère envers mon entourage, mais une colère envers moi-même. C'est que à ce moment-là, je me déteste. Mais je me déteste à tel point que je pense que tous les gens qui me regardent me détestent. Donc, il y a une sorte de paranoïa qui se crée autour de ça, où on s'aime tellement peu, en fait. On peut tellement plus se voir en photo. On se trouve nul, on se trouve à chier. Enfin, c'est horrible. Et du coup, on n'a pas envie que les gens soient témoins de cette médiocrité, quoi. Donc, moi, c'est cette colère contre moi qui me faisait souvent être virulente avec les autres. Et en fait, j'ai réussi à me calmer en apprenant à m'aimer plus, en fait, en apprenant à moins me juger, à être moins dure avec moi-même. Ça a été vraiment le début de la transformation. C'est que j'ai appris qu'en étant moins dure avec moi-même, j'allais être moins dure avec les autres par conséquent. Et voilà, c'est ça qui m'a sauvée, parce que quand on nous dit « Non, mais il faut rester calme sur le terrain, il faut pas avoir d'émotion, il faut pas avoir de colère », mais c'est que des bêtises, parce qu'en fait, on les a, ces émotions. C'est juste que il faut comprendre d'où elles viennent et comprendre comment les enrayer. Mais c'est pas en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça que ça marche, parce que moi, ça n'a pas marché avec moi. J'ai dû comprendre, analyser et voilà, et faire ce travail sur moi-même qui a été long et fastidieux, mais qui a payé, qui paye maintenant. Et c'est vrai que cette colère que j'avais à l'époque, je la ressens mille fois moins maintenant. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'incidents depuis ce match à Indian Wells, qui a été vraiment un des pires moments de ma carrière. Ouais, mais sans aucun doute.
Il y a un autre moment qui est dur et pareil, tu en parles dans le livre. Il y a quelque chose qui ressort avec toi, c'est que c'est marrant, tu es une combattante, mais bizarrement, tu n'aimes pas être en conflit avec quelqu'un et tu l'acceptes pas, quoi. Et il y a eu ce match contre Tatiana Maria à Roland-Garros sur le court numéro 2 qui malheureusement n'existe plus, car il y avait une ambiance de dingue sur ce terrain. Et c'était un de ces matchs-là où le public était derrière toi, le public français de Roland-Garros était derrière toi à fond. Et grosso modo, Tatiana pense que tu lui fais à l'envers parce que t'es pas bien, parce que t'as mal à une cuisse et que quand même tu te bats et qu'effectivement on a l'impression que tu peux jouer à moitié mais en même temps t'es toujours là. Et tu fais tout pour gagner, voilà, tu fais ton job. Et aujourd'hui, voilà, tu dis que vous ne vous parlez plus, que quand vous croisez, vous ne dites plus bonjour. Pareil, c'est quelque chose qui doit être dur pour toi.
Oui, là, j'ai fait plus vite ce travail de deuil, entre guillemets, parce que déjà, sur le moment, j'avais pas grand chose à me reprocher, à savoir que, effectivement, de l'extérieur, on peut se dire, mais elle est en train de mourir, pourquoi elle arrête pas? Mais en fait, on revient à ce grain de folie qu'on a tous, c'est que, on peut parfois, mais ramper sur le terrain, tant qu'il y a une chance de gagner, on va ramper. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tant qu'il y a une petite, minuscule lumière au bout du tunnel, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça, et ça m'a sorti de beaucoup de situations où j'étais en difficulté. C'est que je vais donner toutes mes dernières cartouches. Et sur ce match-là, j'avais mal à la cuisse, je crampais de mon autre jambe, mais crampais à un point que j'avais jamais crampé. Je pouvais plus marcher, plus rien. J'appelle le kiné, mais on me laisse appeler le kiné, mais on la laisse pas me traiter mes crampes. On l'a fait me traiter mon autre jambe, ce qui ne sert à rien. Donc du coup, c'était une situation, un quiproquo, mais horrible. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que comme beaucoup de joueuses, Tatiana, je pense qu'elle a été subjuguée par ses émotions, par le fait qu'elle puisse gagner ce match. Et elle m'a laissé revenir dans le match. C'est-à-dire que c'est pas que ma faute hein, si elle a perdu. C'est elle aussi qui s'est à un moment donné mentalement effondrée et qui m'a permis de revenir. Et c'est vrai que je faisais des points de ouf où je montais au filet, je faisais n'importe quoi. Le public était derrière moi comme jamais et ça m'avait complètement transportée. Et au final, à la fin, elle me dit des mots pas très gentils. Et c'est là où ça entache complètement la victoire que je viens d'arracher avec mes tripes, parce que je me dis il y a quelqu'un qui me trouve pas fair play, quelqu'un trouve que j'ai été pas correcte, mauvaise joueuse, etc. et tout ce qu'elle a pu me dire. Et au final, j'en parle aussi pas mal dans mon livre, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que ça transporte beaucoup de mauvaises informations, ça désinforme beaucoup de gens. Et au final, ça m'a fait beaucoup de tort sur ce match-là parce que tout le monde en est allé de son opinion et j'ai été encensée, détruite, un peu les deux. Et moi, je savais plus du tout quoi en penser. Et j'avais surtout complètement oublié que je venais de me qualifier pour le troisième tour de Roland et que c'était ça le plus important. Donc voilà, c'était un moment vraiment pas facile. Et puis moi, après ça, je lui ai envoyé un texto, je me suis excusée. J'ai essayé de lui reparler par la suite, mais j'ai été blacklistée pour toujours, malheureusement. Alors que c'était une fille que j'appréciais, qui est très sympa. Et c'est dommage qu'un match de tennis puisse gâcher une relation pour toujours, quoi. Je veux bien faire la gueule de moi, mais là, ça fait quand même 4 ans. Et j'ai plus jamais eu un regard ni un bonjour. Donc, c'est cher payé, quoi. Mais c'est la règle du jeu, c'est comme ça.
Tu évoques un microcosme étouffant et quelques inimitiés sur le circuit. C'est dur, le circuit féminin?
Je pense que c'est un peu plus dur que le circuit masculin. Il me semble que les garçons ont une vision un petit peu plus relaxe du circuit. Ils passent plus de temps ensemble. Je pense qu'ils discutent plus. Ils ont des relations un petit peu plus franches, vues de l'extérieur, bien sûr, parce que je ne suis pas dans les vestiaires et je ne peux pas savoir, mais nous, il y a un petit peu plus d'animosité, un peu plus de rivalité. Puis voilà, on reste un groupe de filles. Et c'est vrai que les filles, il y a plus d'émotionnel, il y a plus de... on est plus sensible. Et du coup, ça se ressent aussi dans le circuit. Mais j'ai l'impression quand même que moi, je vis beaucoup mieux mes années de circuit maintenant qu'il y a 10 ans. Alors peut-être que j'ai aussi maturé et maintenant, je prends plus de recul. Mais j'ai l'impression que l'ambiance est un peu plus cool malgré tout. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que les nouvelles joueuses sont un peu plus ouvertes, un peu moins dans la rivalité? Mais en tout cas, voilà, c'est quand même... Il y a quand même des bons moments. On passe quand même des bons moments. C'est un microcosme étouffant, certes. Et il n'y a pas beaucoup de relations, de vraies amitiés, de relations vraiment, vraiment authentiques. Mais malgré tout, ça reste des collègues de travail et que ça se passe bien. Donc, c'est déjà une bonne chose.
Il y a eu un autre épisode qui a été très dur pour toi à vivre. C'est les trois no-shows qui ont été révélés par l'ITF alors que tu étais là sur le troisième et il y a eu toute cette histoire autour de ça. Donc c'est en 2017, tu es menacé donc d'avoir enfreint le code de l'antidopage. Tu dis que tu ressentais une grande anxiété, on le ressent vraiment dans ton livre, et que aussi tu étais en colère contre la FFT parce qu'elle a sorti un communiqué avant que tu le fasses et que tu t'es senti un petit peu abandonné.
Mmh. Ouais, ça a été de loin la pire période de ma carrière, peut-être pas de ma vie, mais de ma carrière en tout cas sportive, oui. C'est 6 mois d'angoisse en fait à ne pas savoir si j'allais pouvoir continuer à exercer mon métier. Un métier pour qui je donne tout depuis que j'ai 4 ans, et pour une erreur en plus dont je ne suis pas responsable. Donc c'est vrai que c'était très dur à digérer. Et puis le regard des autres, l'amalgame entre les no-shows et le dopage du grand public, les couteaux plantés dans le dos un petit peu par la FFT, par l'ITF qui est vraiment là pour détruire ces athlètes dans ce cas-là, parce que vraiment, ils n'ont aucune pitié. À partir du moment où il y a 3 no-shows, on est vraiment considérés comme des... j'ai même pas le mot, quoi. C'est comme des...
Pestiférés.
Ouais, c'est ça, des pestiférés, exactement, c'est ça. Et c'est vrai que la FFT n'a pas été très correcte à ce moment-là avec moi, que ce soit Pierre Chéret ou Bernard Giudicelli. Bon, Bernard Giudicelli, j'avais pas de rapport particulier avec lui, mais c'est vrai que Pierre Chéret, il avait été mon entraîneur, j'étais très proche de lui, et ça m'a fait beaucoup de mal de voir qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était de se débarrasser du bébé, de n'avoir vraiment aucune responsabilité dans l'histoire. Et je me suis sentie effectivement un peu trahie. Et c'est pareil, ça, j'ai du mal à pardonner. J'avoue que pourtant les choses se sont tassées. J'ai été disculpée. Le troisième no-show a été, on a prouvé que c'était pas vrai et tout ça. Et malgré tout, j'ai quand même un peu de rancœur, alors que je suis pas du tout quelqu'un de rancunier. Moi, je passe très vite à autre chose. Mais là, ça m'a fait tellement de mal et tellement de tort que je suis un petit peu encore aigre à propos de ça.
Il y a des joueuses qui te regardaient différemment.
Il y en a eu quelques-unes, ouais. Mais en fait, pas tant que ça. Moi, je pensais que ça allait être. Je me souviens quand j'ai débarqué à Saint-Pétersbourg, ça venait de sortir, et je m'étais dit, mais les joueuses, elles vont me regarder en coin, elles vont croire que je me suis dopée, que j'ai fait exprès, que j'ai pas été vigilante, enfin tout ça. Et en fait, pas tant que ça déjà, parce que je pense que tout le monde s'en fout un peu des autres. Il y a vraiment cette composante où tout le monde est très focalisé sur sa petite carrière, et voilà, on en parle parce que ça fait les choux gras de la presse, mais au final, personne n'est vraiment concerné. Et aussi, je pense en grande partie, parce que les joueuses connaissent les contraintes de l'antidopage, de l'ADAMS, et savent que ça va très vite, en fait, qu'on peut avoir un, deux, et puis sur un malentendu, un troisième no-show qui traîne. Je n'ai pas été la première à qui ça arrive, et je sais qu'on est tous très anxieux par rapport à ça. Donc je me dis que finalement les joueuses se sont dit, ah bah voilà, pas de chance, Alizé, ça, voilà, elle s'est emmêlée les pinceaux, parce que c'est tellement contraignant qu'au final personne n'est à l'abri de ça. Donc je me suis pas sentie tant jugée que ça et tant dévalorisée, ce qui a été un grand soulagement, parce que j'avais vraiment peur du regard de mes collègues joueuses et joueurs.
C'est marrant, quand on regarde ta carrière, il y a beaucoup de... C'est assez rocambolesque, c'est un peu les montagnes russes. Il y a eu cette histoire d'antidopage, il y a eu un début fulgurant. Après, tu l'as dit, quelque chose où tu as eu du mal à digérer ces débuts très prometteurs. Et puis, j'ai envie de dire, s'il y avait il y a un symbole qui peut représenter ça, c'est la Fed Cup. Une relation rocambolesque aussi avec cette Fed Cup, puisque tu as mis du temps à te sentir à l'aise avec le maillot franc sur les épaules. Qu'est-ce que tu ressentais au début?
Au tout début, beaucoup de fierté, beaucoup d'excitation, et puis rapidement beaucoup de peur, en fait, beaucoup d'anxiété et beaucoup de responsabilités pas assumées, en fait. Et plus que pas assumer, j'étais prête à les assumer, mais j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors déjà que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, comme tu as pu le comprendre. Quand je joue pour moi, ça va, parce que finalement, ça ne touche que moi, et il n'y a pas vraiment de conséquences à part ma petite carrière. Mais quand je joue pour d'autres, pour une équipe, pour un pays, là, tout de suite, ça prenait des proportions gigantesques, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu des débuts très compliqués, parce que j'ai beaucoup perdu au début. Et ça m'a pétrifiée, en fait. Ça m'a pétrifiée pour de longues années, jusqu'à ce qu'Amélie arrive à me remettre en confiance, et puis ensuite Julien. Et c'est vrai que là, je vis mes meilleures années là depuis 3-4 ans, mais il ne faut pas oublier que je suis rentrée en équipe de France à 18 ans, donc j'ai eu quand même quelques années compliquées. Et malgré tout, ça a toujours été un honneur et un plaisir de partir en Fed Cup. Et je me suis toujours considérée... vraiment hyper chanceuse de pouvoir jouer pour le maillot de l'équipe de France. Donc, comme tu dis, c'était un peu une relation je t'aime, je te hais. Et c'était vraiment, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais quelle aventure quand même. Et puis, quand je vois ce qu'on a fait l'année dernière, je me dis que ça valait vraiment la peine de s'accrocher.
On va y revenir, bien sûr. Mais dans ce parcours avec la Fed Cup, il y a les débuts. Et puis, dans ton livre, tu n'es pas tendre avec le capitaine Nicolas Escudé. On sent que ça ne passait pas entre vous. Tu évoques des moments où, effectivement, lui a pu être dur avec toi, mais il te reprochait aussi des moments où tu as pu mal te comporter. C'était quel genre, avec le recul maintenant, aujourd'hui?
Oh bah, mon genre, comme j'étais à 19 ans, c'était que je râlais sur le court, je chouinais. Enfin, c'était mon attitude un peu d'habitude, peut-être... Le problème, en fait, c'est que j'osais pas être complètement moi-même en Fed Cup parce que je savais que j'étais regardée et que j'étais justement jugée sur mon attitude. Et du coup, ça faisait un effet un peu pervers. C'est que j'avais envie de râler, mais en fait, j'osais pas. Et donc, en fait, j'avais le stress qui montait. Donc, j'étais de plus en plus nerveuse. Et je pense que... Enfin, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute et de me dire, il a probablement fait ça pour m'aider et que le fond était sûrement bienveillant. Mais la forme, elle a été horrible. Elle a été horrible. Et franchement, j'ai été traumatisée par ces conversations avec Nicolas qui a voulu, je pense, me recadrer et me dire « Non, mais si tu veux être une bonne joueuse, il va falloir que tu te comportes comme ça. » Et en fait, j'étais peut-être pas prête à l'entendre. Et puis surtout, ça a été fait d'une manière assez rude. Il fallait pas oublier que j'avais que 19 ou 20 ans. J'étais toute jeune. Alors, ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur circuit. Donc, on avait tendance à l'oublier, mais... J'étais une gamine, quoi. Mais donc, voilà, je pense qu'il y a eu une incompréhension, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup, pas dans le bon sens, malheureusement. Donc, voilà, ça a été, là, encore une fois, la relation avec la Fed Cup qui a été, comment tu dis, très bien rocambolesque. Et je me dis que finalement, cette carrière rocambolesque, elle aura bien valu un livre. Je pense que ça... C'était pas du luxe de tout mettre sur papier et en plus ça montre aux gens à quel point une carrière elle peut être faite de tellement de choses que les gens ne savent pas en plus derrière leur écran et voilà, c'est intéressant de voir un peu l'envers du décor par rapport à ça.
Mais après, heureusement, il y a ton héroïne Amélie qui arrive.
Mon héroïne.
Non, je dis ça parce que c'est un peu une idole de jeunesse. Elle arrive en capitaine de Fed Cup et là tu respires.
Ouais, c'est sûr qu'Amélie c'est une histoire particulière parce que moi je l'ai ramassée, j'ai été sa ramasseuse de balles quand j'avais 11 ans et puis 4 ans plus tard je l'ai jouée sur Suzanne Lenglen et puis 7 ans plus tard je l'ai en capitaine, donc c'est vrai qu'en 10 ans on est un peu passé par toutes les étapes et donc elle a été une figure quand même assez importante dans ma vie de joueuse, assez lointaine mais finalement toujours présente. Et là, quand elle est arrivée en équipe de France avec ses méthodes, avec son intelligence, avec vraiment tout était très calculé, beaucoup de communication, pas de non-dit, ça a été vraiment pour moi une bouffée d'air pur en fait. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de secret. Hein. Elle a su me prendre de la bonne manière. Elle m'a mis aussi des cartons de temps en temps, je me souviens. Un match à Coubertin où j'avais perdu et j'avais une grosse conversation avec elle et elle m'avait dit si tu veux retourner sur le court demain, il va falloir que tu le fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sinon tu y retournes pas. Mais c'était juste qu'elle savait comment me prendre en fait. Elle y allait pas de front, elle y allait avec ses mots, avec de la délicatesse et avec moi, je sais que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le plus de moi-même, c'est en me prenant de la bonne manière et elle avait bien réussi. Donc ça a été des années vraiment fastes pour l'équipe. J'ai des souvenirs incroyables, comme on peut en avoir en équipe de France quand ça se passe bien. C'est une aventure humaine qui est fabuleuse. Franchement, cette année, moi, ça m'a trop manqué. C'est le truc qui m'a le plus manqué, c'est la Fed Cup.
Avec ce qui s'est passé après la finale à Strasbourg, avec Caroline Garcia, avec Kristina Mladenovic, avec l'histoire du LOL sur Twitter, on va pas y revenir. Quand Caroline revient pour ce premier match, je crois que c'est à Liège, toi, comment tu abordes ce retour-là de Caroline en équipe de France ?
Moi, je l'aborde d'une très bonne manière. C'est que moi, je suis ravie qu'elle revienne. Je suis super contente. Déjà parce que nous, on avait crevé l'abcès un petit peu en amont, même pas mal en amont. Donc, on avait... retrouver des relations cordiales, voire même amicales. Du coup, moi, j'étais très contente qu'elle revienne, surtout qu'on sait à quel point Caroline, c'est un atout dans l'équipe, en simple, en double, dans la vie de groupe. Enfin, c'est une super nana et j'étais vraiment attristée de comment les choses s'étaient passées après Strasbourg et du LOL et tout. J'ai pas du tout assumé. Moi, je me suis trouvée tellement bête, en fait. Mais bon, voilà, l'erreur est humaine. Et au final, il y a eu aussi, je pense, un manque de communication entre nous et Caroline, ce qui n'a pas aidé les choses. Mais moi, j'étais hyper contente. Enfin, quand Julien m'a annoncé qu'elle revenait, déjà, je lui ai dit, putain, respect, parce que c'était pas gagné. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir gérer le groupe. Et effectivement, ça n'a pas été simple. Il y a dû avoir beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Ça a pété un petit peu au début, à droite, à gauche. Mais au final, on a toute une intelligence de se recentrer sur l'objectif qui était, OK, gagner dans un premier temps Liège et puis peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais gagner la Fed Cup. Et ça, ça nous a rassemblés à un moment où on en avait besoin. Et Pauline et moi, je pense que, sans nous envoyer des fleurs, mais je pense qu'on a vraiment été... On a vraiment été efficace pour souder le groupe à ce moment-là, parce que Fiona, elle était toute jeune, elle arrivait dans l'équipe, elle savait pas trop dans quoi elle débarquait. Christina avait encore un peu de rancœur vis-à-vis de Caroline, et du coup, nous deux avec Pauline, on a vraiment été en mode OK, on va se mettre en pilier de groupe avec bien sûr le staff et tout ça, et on va faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de le répéter, mais cette victoire, elle a été une victoire de groupe par excellence, quoi, sur le court et en dehors.
On commence par le court. Il y a peut-être ton meilleur match en Fed Cup contre Mertens, je me trompe.
Ouais, je pense, ouais. Ouais.
C'est pareil, j'ai re-regardé des extraits de la Fed Cup pour préparer cet échange. C'était bon de te voir aussi libéré.
Ouais, c'était pas gagné en plus. Et contre une joueuse qui est ultra solide, enfin, Elise Mertens, ça fait 3-4 ans qu'elle est là, qu'elle bouge pas du top 20, qu'elle est pas facile à battre parce qu'elle est... C'est une machine, quoi. Elle est hyper solide. Et c'est marrant parce qu'on avait mis une tactique en place avec Jus et Champ. Et c'est vraiment, je me suis raccrochée à cette tactique tout le match et j'ai pas lâché. Et je savais que ça allait être dur, mais j'étais bien. J'étais pas complètement relâchée parce que je pense qu'en Fed Cup, et même en règle générale, on joue toujours un petit peu des fois avec le frein à main, c'est normal. Mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. J'ai tapé dans la balle, je me suis exprimée et ça a été difficile mais tellement bon en fait de pouvoir faire un match de cette qualité et de ramener un point vraiment important quoi à un moment crucial où l'équipe on était encore en train de reprendre nos marques par rapport au tour de Caroline tout ça et ça m'a vraiment ça a été un même si la victoire finale a été très forte en Australie mais cette victoire personnelle en Fed Cup pour moi ça a été un des moments les plus forts de ma carrière et on peut le voir sur la balle de match. J'exulte, limite, j'en reviens pas. Je me dis, mais c'est moi qui ai pondu ce match en Fed Cup, ça m'était jamais arrivé et ça me donne de l'espoir pour l'avenir aussi parce que voilà, encore une fois, comme je le disais avec Serena, à partir du moment où on le fait une fois, on se dit, non, mais voilà, le compteur est débloqué et je pourrais le refaire. Donc, j'ai qu'une envie là, c'est de rejouer. Ça a été dur de pas rejouer, hein, après en 2019, mais je sais que je rejouerai dans l'avenir, donc c'est cool.
Comme je te disais, j'ai re-regardé la vidéo de votre victoire. Je te cache pas que j'ai eu des larmes. Et à la fin du film, et je veux évoquer ce moment-là parce que d'un, ça dit qui est Pauline Parmentier. Et elle finit avec cette jolie phrase, c'est bon de se re-aimer. Et tu le dis dans ton livre, Pauline, c'est ta pote, quoi, non?
Ah ouais, ah, c'est ma pote. Pauline, c'est ma pote, ça restera ma pote en dehors du tennis. On a commencé notre carrière quasiment ensemble. On s'est suivis tout du long et on a eu des hauts et des bas, des moments où on s'est pas compris, mais il y a une amitié hyper forte qui s'est développée et moi, j'aime ce qu'elle représente, j'aime ce qu'elle est. C'est une fille qui a tellement de joie de vivre, mais qui dissimule aussi des failles, parce qu'elle a des doutes, elle a des failles et tout ça, et elle les cache parfois comme ça, avec sa bonhomie, avec son rire, avec son humour. Et j'aime bien le paradoxe de sa personnalité, et en équipe de France, elle est, c'est notre comique du groupe, quoi. Vraiment, c'est sans elle, j'osais même pas imaginer ce que ça va être sans elle. Ça va laisser un vide, intersidérale quoi donc c'était important je parle beaucoup d'elle mais parce que c'est elle aussi à l'image d'Amélie ça a été une figure vraiment hyper importante tout au long de ma carrière en tant que joueuse et ça a été un repère que je n'aurai plus malheureusement mais je sais qu'elle restera toujours pas loin.
Pauline elle a fait le choix donc d'arrêter le tennis parce qu'elle a envie de passer un autre chapitre de sa vie peut-être mettre l'athlète de haut niveau de côté, de prendre soin de sa vie de femme. Et dans cette dernière partie, parce que encore une fois, tu en parles dans ton livre, j'ai envie d'évoquer ce que c'est d'être une femme et une athlète de haut niveau en même temps. Et que tu me dises un petit peu, déjà, est-ce que c'est dur d'allier les deux?
Je sais pas si c'est difficile parce que j'ai rien connu d'autre au final. Et c'est un peu ça le piège. C'est que parfois, on ne sait plus si on n'est qu'une athlète, une femme. Moi, je me suis toujours considérée comme une athlète. J'ai toujours considéré mon corps comme mon outil de travail, comme ma machine. Du coup, il y a cette relation avec la féminité un peu, qui est un peu bizarre, qui est un peu tronquée parce qu'on ne sait plus trop, en fait, en tant que femme. En plus, on n'a pas des relations sociales qui sont normales puisqu'on est toujours sur le circuit et finalement, moi, j'ai pas eu une adolescence comme les autres, j'ai pas été sortie, j'ai pas expérimenté ce que les autres expérimentent. Donc, c'est vrai que il y a un peu ce, on va dire, ça peut prêter un peu à confusion parfois dans sa tête où on sait plus trop où on en est par rapport à ça. Après, être une athlète féminine dans le tennis, on est quand même très bien loti. Déjà parce qu'on est valorisé, parce qu'on gagne bien notre vie, parce que le tennis, c'est un sport qui est beaucoup regardé, qui est apprécié. Moi, je pense surtout aux athlètes qui font d'autres sports qui sont beaucoup moins valorisés, où elles peuvent parfois pas vivre de ça, où elles sont obligées de travailler à côté, tout ça. Mais on va dire que moi, pour une femme, j'ai choisi le bon sport quand même, parce que je me considère vraiment très chanceuse par rapport à ça. Je sais que quand je vais arrêter de ma carrière, je vais être à l'abri pour un certain temps. J'ai fait des économies, et ça, c'est vraiment rare dans la carrière d'une athlète féminine. Après, le truc, c'est que, comme tu l'as dit avec Pauline, à un moment donné, même si elle avait eu envie de continuer, si tu as envie de faire une famille, si tu as envie d'avoir des enfants, bah, y a l'horloge, comme on dit, l'horloge biologique qui se met en route et on n'a pas trop le choix, on est obligé de laisser sa carrière sur le bas-côté. Et ça c'est un truc auquel je n'ai pas encore pensé, parce que je pense qu'au fond de moi, ça m'angoisse un peu, en fait, de penser à cette transition et de pas savoir exactement quand est-ce que je vais avoir effectivement envie de fonder une famille. Enfin, je veux dire, Pauline, elle avait aucun doute. Moi, je lui ai parlé à Roland, elle m'a dit, ouais, je suis trop contente, moi, ça y est, je vais pouvoir faire des bébés, trop bien. Je te la vois super. C'est génial de partir comme ça, mais c'est pas toujours aussi clair. Et c'est pour ça que ça peut être difficile à gérer, mais pour l'instant, moi, je suis dans ma vie d'athlète, donc je me pose pas plus de questions que ça, mais, c'est là, j'arrive à un tournant, bien sûr, de ma vie où il va falloir que je me les pose, ces questions.
Par exemple, tu as déjà participé à 3 Olympiades. J'espère pour toi 4 avec Tokyo en 2021.
J'espère aussi.
Mais est-ce que tu te verrais tenter une 5e à Paris en 2024?
Non, alors ça, je peux déjà te répondre non.
Ah,
ouais,
d'accord.
Ouais. Attends, après, on ne sait jamais, tu sais, tu dis des trucs et puis tu les tiens pas, mais... La 5e Olympiade, ce serait pour mes 34 ans. Je pense que je serais un peu usée, à mon avis. Déjà, le corps, c'est pas facile tous les jours. Le corps grince, il y a beaucoup de fatigue, il y a un peu de lassitude, que ce soit physique ou mentale. Là, tu me dis, dans plus de 3 ans, dans 3 ans et demi, après, les années passent en un éclair, hein, donc on n'est jamais à l'abri, mais franchement, ça me paraît, j'ai commencé à 15 ans. Ça ferait presque 20 ans de carrière. Je sais pas si j'ai... Psychologiquement, émotionnellement, c'est tellement épuisant comme vie qu'à un moment donné, on a envie aussi de voir autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Et je dirais plutôt non. Je vais pas dire à 100% parce qu'après, tu vas me refaire un podcast dans 4 ans à Paris 2024. Alors, tu vois. Mais plutôt non. Plutôt non que oui. Par contre, travailler pour les Jeux d'une autre manière, ça, j'adorerais. Mais en tant qu'athlète... Puis il y a les petites jeunes qui vont me passer devant à un moment donné, hein. Il faudrait aussi que je me qualifie, quoi. C'est pas fait, hein.
Il y a une question que je pose à tous mes invités et c'est très clair avec toi, que ce soit sur le terrain ou dans ton livre, on sent qu'il y a une rage. Tu penses qu'elle vient d'où chez toi, cette rage, ce feu intérieur?
Et c'est une bonne question, Antoine. Je sais pas d'où elle vient. Parce qu'en plus, je l'ai toujours eu du plus loin que je me souvienne. Je pense que ça vient de mon esprit de compétition. Voilà. Ce feu intérieur, cette envie de gagner, d'être prêt à tout pour gagner, de travailler aussi dur pour progresser, pour être la meilleure version de moi-même, du moins. Ça vient vraiment de mon esprit de compétition et de ce truc de toujours se challenger et de toujours challenger les autres. C'est pas un truc typiquement féminin, parce que je pense que les femmes, en règle générale, on n'a pas trop l'esprit de compète. Mais alors moi, je pense que je l'ai plus même que 90% des mecs. Donc voilà, ça a été mon petit grain de folie à moi et c'est ça qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui.
Et est-ce qu'elle vient d'une famille aussi ?
C'est pas hyper marqué. C'est pas hyper marqué. Ma mère, l'esprit de compète, mais non, enfin, sûrement, mais c'est pas ce qu'ils m'ont transmis en premier. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi et qui sort de nulle part. Voilà, c'est la moralité.
Mais en revanche, on les sent très présents autour de toi.
Bien sûr, bien sûr. C'est important d'être bien entouré. Et moi, j'ai été entourée de beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et je les en remercie encore et encore parce que je vois que c'est loin d'être le cas partout. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas aussi bien entourés, qui sont parfois poussés très fort contre leur gré. Moi, c'est toujours été moi qui les ai entraînés dans mon délire, dans mon aventure. Et ça a été une relation très saine. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai encore l'amour du jeu maintenant à 30 ans. C'est que ma carrière, elle a été construite sur des belles bases, en fait. Et c'est pour ça que ça tient encore la route. Ça, c'est grâce à ma famille, évidemment.
On arrive un peu vers la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on te souhaite en 2021? Un quart en grand chelem, au moins?
Ouais, un quart en grand chelem, mais j'ai envie de dire une année sans Covid, quoi. Ce serait sympa. Une année avec plein de tournois, avec plein de challenges à relever, des matchs gagnés, pas trop de blessures. Et voilà, et déjà, je serais très heureuse. Maintenant, ça fait 2 ans déjà que je suis dans l'objectif de prendre du plaisir beaucoup plus sur ma carrière, de moins me focaliser sur mes résultats, mais plus sur le cheminement. Donc voilà, juste qu'on puisse faire notre métier et que la vie continue, pas que pour nous, mais aussi pour tous ces gens qui sont impactés fort par ce virus. On espère que ça va aller mieux.
Ça me paraît bien pour finir, Alizé. Merci beaucoup. Je conseille vivement ce livre, déjà pour tes fans et puis pour des parents ou des jeunes qui veulent être champions et qui veulent s'inspirer d'un parcours, qui puissent se rendre compte via voilà un exemple ce que ça peut demander en sacrifice, en effort, en motivation. Je pense qu'on peut dire à juste titre que tu es un bel exemple. Et merci beaucoup, Alizé.
Merci, Antoine. C'est sympa. Merci.
Bon ben, rendez-vous est pris pour Paris 2024 avec Alizé Cornet. Sans compromis, c'est le titre de son livre publié aux éditions Amphora et ça résume bien le caractère de cette grande championne. Cet échange est réalisé grâce au talent d'Adrien Noël et Laurent Aquenin dans les murs du studio L'Aude. Merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant aux pages Instagram et Facebook de l'émission. À très bientôt pour un nouvel épisode d'échange. Et d'ici là, prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.